Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous. Alors, nous sortons à peine du Covid et bien des certitudes ont été balayées par cette pandémie. Par exemple, que nous étions tout puissants. Nous avions une impression de domination des choses. Et puis, est venu s'ancrer dans notre esprit un peu plus de réalité. En fait, notre santé peut subitement être mise à mal par le simple fait que nous ne respectons plus les règles d'équilibre du vivant. Et pour la énième fois, on évoque avec le Covid un virus passant potentiellement de l'animal à l'homme. Et cette fois, nous sommes tous concernés. On est loin d'Ebola, en Afrique, ou du chikungunya, ou de la dengue, ou du paludisme. Et subitement, c'est le monde entier du nord ou sud qui se trouve touché. Alors en effet, le phénomène ne date pas d'hier, il a fallu une pandémie mondiale pour imposer One Health. One Health, vous avez entendu parler, une seule santé. La santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles existent. Voilà la définition. Mais parce que la santé des animaux et la santé des écosystèmes dépendent grandement des activités humaines, et aussi parce que la santé des animaux et la santé des écosystèmes déterminent la santé humaine. En fait, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va marteler ce que des chercheurs lui disent depuis environ 2005. 75%, bon c'est un chiffre, comme d'habitude, on a des chiffres, à vérifier. 75% des agents pathogènes humains émergents, sont d'origine animale. Des communautés qui travaillaient de façon assez indépendante vont se retrouver autour d'une même table et plusieurs niveaux de scientifiques. Chercheur de classe exceptionnel, Jean-François Guégan n'a pas attendu la pandémie pour analyser les liens que nous venons d'évoquer. Il s'y emploie depuis plus de 30 ans. Nous aurions pu lui parler de la rage, de la tuberculose, de la grippe aviaire. Il a travaillé sur tous ces thèmes. Mais notre inquiétude aujourd'hui tient aux moustiques, ici à Montpellier, qui l'an dernier, en période de canicule, a connu une recrudescence inquiétante. Je ne sais pas si vous avez rencontré vos voisins, notamment les Anglais, qui étaient en vacances ici et qui étaient complètement piqués. Plus d'une centaine d'agents pathogènes qui sont responsables des maladies sont transmises par des moustiques, tels que la dengue, qui affecte plus de 50 millions de personnes chaque année, avec la maladie mortelle que représente la dengue hémorragique. Et aussi, bien sûr, vous connaissez le chikungunya. Alors, à l'origine, Aedes aegypti, qui résidait dans la forêt africaine, et Aedes albopictus, qui était en Asie, se reproduisaient parce que les femelles se nourrissent alors exclusivement du sang animal, surtout celui des singes. Et puis, brusquement, l'homme pénètre leur habitat. Alors, Jean-François Guégan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, en accueil à l'INRA de Montpellier. On pourrait ajouter bien des casquettes à votre profil. Expert à l'OMS, membre du Comité national français sur les changements globaux, membre du Conseil scientifique international de santé publique de France. Mais je m'arrête là parce que la liste est encore longue. Simplement, je voudrais rappeler que vous êtes également professeur associé à l'Université de Montpellier où vous donnez un cours sur le changement climatique mondial et sur la santé. C'est un peu pour cela que j'ai fait appel à vous. Les régions de la Camargue ou de Montpellier, avec les étangs palavasiens, ont toujours été sensibilisées au problème des moustiques. Et puis, depuis quelque temps, nous sommes plus inquiets. Un affreux moustique tigre et là, avec le risque permanent d'enclencher une épidémie de chikungunya. Et bien sûr, on accuse le réchauffement climatique. Alors, est-ce vraiment pour vous un facteur aggravant ?
Alors, Tout d'abord, parmi les moustiques d'une espèce donnée comme l'Aedes albopictus, qu'on appelle aussi plus vulgairement moustique tigre, il n'y a que les femelles qui piquent. Le monde est étrange chez ces insectes finalement. Les mâles se nourrissent d'autres choses et viennent plutôt butiner et se nourrir de nectar en général. Donc il n'y a que les femelles qui piquent. Alors ces femelles qui vous piquent peuvent constituer ce qu'on en appelle une nuisance en santé publique, puisqu'elles vont provoquer des gènes, ça va vous piquer et vous allez vous gratter, et puis ça peut provoquer d'autres complications cutanées. Donc ça, c'est déjà un énorme problème. Mais il faut savoir, et les auditeurs doivent bien savoir, que dans la plupart des situations, ces moustiques ne sont pas pourporteurs dans nos régions, ne sont pas ni porteurs de virus ou de bactéries en particulier.
Il faut qu'ils rencontrent quelque chose.
Il faut qu'ils rencontrent quelque chose. Alors ce peut être une personne qui va revenir d'une zone qui, elle, en est affectée. Il va revenir suite à une visite touristique en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou dans d'autres régions du monde, et qui va venir infecter. Et dès lors, lorsque la femelle moustique va piquer cette personne infectée, elle va pouvoir récupérer ce virus en particulier et le transmettre à d'autres personnes. Donc il y a ici ce qu'on en appelle une condition qui est absolument nécessaire, qui est la présence du moustique. Mais cette condition ne suffit pas, elle n'est pas suffisante, dans la mesure où il faut que ce moustique ait rencontré une personne infectée. Et généralement, la plupart des infections que l'on observe dans le sud de la France sont d'origine extérieure au territoire.
Alors effectivement, moi, au cours de mes reportages, je me suis baladée dans les mangroves. Il y avait plein de moustiques tigres, il y avait du chikungunya, et en même temps, on me disait, mais il n'y a rien à craindre, parce qu'il n'y a pas de vecteur.
Voilà, absolument, il faut, je le redis, hein, la présence du moustique est une condition. S'il n'y a pas de moustique, il n'y aura pas de la transmission de ces agents infectieux pathogènes transmis par des vecteurs. Donc il y a une condition absolue qui est la présence des moustiques. Sans moustique, ce type d'infection dite vectorisée, donc soit par des vecteurs, ne peut pas se réaliser.
Alors en fait, c'est plus l'avion, le déplacement, qui est le responsable de ça, plutôt que le réchauffement climatique. Voilà,
absolument. Ce sont les déplacements de personnes, mais aussi les transports de biens, les transports commerciaux qui vont disséminer à plus large échelle ce type de vecteur. D'ailleurs, Aedes albopictus est apparu dans le sud de l'Europe, en Albanie, avec le commerce et principalement le commerce des pneus réchappés.
C'est-à-dire les moustiques se mettaient dedans ?
Absolument. Vous imaginez la structure d'un pneu. On connaît tout ça quand on est enfant. Eh bien, à l'intérieur du pneu, vous avez une cavité qui entretient en permanence de l'eau et qui permet le développement des larves du moustique. Voir s'il n'y a pas d'eau, les œufs du moustique, de cette famille de moustiques, peuvent persister dans des environnements aussi très très secs. Et lors d'un commerce international de ce type de pneus, mais les avions embarquent des passagers clandestins de ce type, nos coffres de voitures et les cockpits de voitures d'eux-mêmes embarquent des passagers clandestins qui sont constitués par ces moustiques et qui circulent à très large échelle de Montpellier à Lyon, de Montpellier à Paris ou jusqu'à Barcelone. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui le démontrent.
Alors vous les avez suivis ? Vous avez fait quelque chose là-dessus ?
Personnellement, moi, je ne travaille pas directement sur ce sujet, mais je m'intéresse à la littérature scientifique qui est produite. Et donc, on voit bien, il faut environ 2h30 par l'autoroute pour aller de Montpellier à, disons, Lyon. Vous allez embarquer des passagers clandestins dans le cockpit de votre voiture. Et donc, cette dispersion va se produire continuellement de manière journalière et de manière extraordinaire, non seulement avec le transport par les voitures, mais aussi les camions cargo, les trains, bien entendu, mais aussi les avions qui vont disperser à large échelle ce type de moustiques. Donc, la dispersion de ce type de moustiques et sa colonisation dans des espaces dans lesquels il n'est pas encore présent est essentiellement dû au transport économique de biens, de personnes, mais aussi d'animaux.
Alors pourtant, on parle beaucoup des effets du réchauffement et de l'arrivée du moustique tigre en France. À votre avis, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est mis ça dans la tête ?
Alors, il existe, bien entendu, mais vous avez ici des insectes qui sont de très petite taille, qui ont environ un rayon de vie qui est environ de 300 à 500 mètres. Voilà, on sait très bien que le changement climatique a un effet, notamment sur des espèces de papillons ici en France ou des espèces d'oiseaux qui se reproduisent et installent des populations 180 km plus au nord qu'il y a 30 à 40 années. Donc le changement climatique et ses effets sur la biodiversité est aujourd'hui évident. Mais ces moustiques, comme je vous l'exprimais plus avant, ont une dispersion qui est organisée et de manière extrêmement rapide par le circuit des communications, voitures, avions, trains et camions cargo, et qui se fait dans la journée. Alors que le changement climatique, s'il a une influence sur ces petits moustiques, c'est un phénomène qui aura lieu dans le temps long, sur quelques centaines de mètres, sur plusieurs mois, plusieurs années parfois. Et donc, on a des événements rapides qui prennent de l'importance par rapport à des événements extrêmement lents et que l'on ne voit pas, puisque les événements de transport prennent le pas sur les éléments lents.
Alors, effectivement, donc, quand en 2017, Eric Orsena nous écrit une géopolitique du moustique, il n'a pas tort, parce que finalement, on peut encore trouver des niches. Alors, il nous dit, et j'aime beaucoup cette phrase, « Quand ils nous vrombissent à l'oreille, ils ne se contentent pas de pourrir nos nuits. C'est une histoire qu'ils nous racontent. Leur point de vue sur la mondialisation. Une histoire planétaire de frontières abolies, de mutations permanentes, de lutte pour survivre. L'histoire surtout d'un couple à trois, le moustique, le parasite et sa proie. » Alors, il oublie quelqu'un, il oublie les chercheurs dont vous êtes membre, Jean-François Guégan. Alors, dans cette fameuse communauté du moustique, il y a des entomologistes, des parasitologistes, des épidémiologistes, qu'est-ce qui les différencie un petit peu vous les connaissez. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous avez étudié sans être vous-même à l'origine de ces recherches.
Alors, Eric Orsena a tout d'abord raison. Nous sommes finalement la ressource sur laquelle viennent à la fois se nourrir et puis se reproduire. Alors donc, ces moustiques, mais aussi les agents pathogènes qu'ils peuvent véhiculer. Alors, un entomologiste médical, c'est un domaine d'activité, c'est une spécialité qui va s'associer à la médecine et qui va travailler sur les insectes ou d'autres arthropodes, comme les tiques, par exemple, qui ne sont pas des insectes, mais qui sont des acariens. Et donc, il va travailler sur leur description, c'est-à-dire leur taxonomie, mais aussi leur écologie, essayer de comprendre dans quel type d'habitat ils vivent. Un parasitologue, lui, va travailler sur
des... Et leur nombre.
Leur quantité, la description, leurs abondances, éventuellement leur dynamique, mais cela revient, c'est-à-dire leur propagation dans le temps et dans l'espace, mais cela revient beaucoup plus au travail d'un écologue.
Alors, on avait ensemble un peu préparé cette émission, vous aviez évoqué, pour me faire comprendre les différences, finalement, à l'arrivée d'un avion aujourd'hui avec des Chinois dedans.
Voilà. Alors, effectivement, c'est-à-dire que le vecteur insecte va vectoriser, donc transmettre une infection, mais généralement, un entomologiste travaille sur l'insecte et n'a pas la plupart du temps la formation qui est celle d'un parasitologue, qui est de travailler sur une interaction entre un hôte, dans ce cas-là un vecteur, et un parasite ou un virus qu'il héberge. Et ça, c'est le rôle d'un parasitologue, de travailler sur des interactions.
Donc, l'épidémiologiste compte les Chinois dans l'avion, voilà, comme il compte les moustiques, et le parasitologiste, fait un test pour savoir...
Il va essayer de comprendre l'interaction entre le virus ou le parasite et son insecte, dans quelles conditions le virus se multiplie beaucoup plus et quelles sont les conditions qui vont favoriser sa multiplication et donc son transfert à des populations humaines. Donc généralement, ça c'est le travail du parasitologue et il y a beaucoup moins de personnes à travailler dans ces domaines qu'il y a d'entomologistes. Pour en revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire que beaucoup de travaux sont faits aujourd'hui en entomologie médicale qui sont tout à fait respectables, mais ils calculeraient et estimeraient le nombre de bus à arriver au terminal parisien recevant les avions en provenance de Chine et ils calculeraient le nombre de bus à sortir de ce terminal en faisant une péréquation par le nombre d'individus chinois dans chaque bus. Mais le bus peut-être effectivement plein, ou il peut être totalement vide. Et donc, l'on voit bien là qu'il ne suffit pas de travailler uniquement sur le moustique, mais il faut comprendre aussi son interaction, c'est-à-dire, est-il en possession de virus, de parasites, dans quelles conditions ces virus et ces parasites se multiplient ou pas d'ailleurs. Il peut y avoir des conditions de température, des conditions d'ensoleillement, des conditions environnementales qui ne sont pas favorables au développement du parasite ou du virus chez l'insecte.
Alors, on va quitter un petit peu Montpellier, là, et on va rejoindre un peu le reste du monde, parce que dans sa géopolitique du climat, Orsena évoque bien sûr un peu le monde. Donc, il y a bien des lieux plus graves que notre région pour ces maladies.
Alors absolument, donc on a bien vu
sur lesquels vous avez travaillé, voilà, d'ailleurs.
On a bien vu que le moustique est une condition nécessaire, bien entendu. Il faut un insecte vecteur pour la propagation du virus de la dengue. Sans la présence de ces insectes vecteurs, il ne peut pas se propager, il ne se transmettra pas de personne à personne par des aérosols, par exemple. Donc la présence du moustique est absolument nécessaire, mais ces conditions ne suffisent pas. Donc... et là, je trouve que l'on mélange un peu entre ce que l'on appelle les déterminants de santé à la propagation d'épidémies qui seraient engendrées par la présence de moustiques dans nos territoires et qui se révéleraient être aussi en possession d'un certain nombre de virus, comme le virus de la dengue, du chikungunya ou pourquoi pas du Zika. Et quand on est sur le terrain tropical, on s'aperçoit qu'il y a un enchaînement de déterminants à l'œuvre. Et la plupart du temps, les épidémies dues à la dengue, au paludisme, donc transmises par des insectes vecteurs, eh bien, se déroulent à cause de ce que l'on appelle en épidémiologie, d'où le rôle très important de l'épidémiologiste qui a un regard croisé dans ce domaine, eh bien, c'est le lit de la pauvreté, de la promiscuité, de la densité de population, mais aussi du défaut nutritionnel qui est extrêmement important pour les infections. Une personne moins bien nutrie sera beaucoup plus sensible à une infection par un agent pathogène, qu'il soit véhiculé par un vecteur ou qu'il soit contagieux, qu'une personne mieux nourrie. Et donc on voit le désavantage finalement pour ces populations démunies dans un très grand nombre de régions, notamment d'Afrique. Et donc il y a plusieurs déterminants à intervenir de manière séquentielle et que la seule présence d'un moustique dans nos régions qui sont des régions pauvres où les gens sont plutôt en bonne santé, sont bien éduqués sont aussi très bien nourris la plupart du temps, il n'y aura pas d'épanchement épidémique selon moi comme on peut le voir dans les régions les plus pauvres du monde où on peut assister à des épidémies de 50 000, 200 ou 500 000 personnes affectées par ce type de pathologie infectieuse, tout simplement parce que les déterminants et leur séquence n'est absolument pas rencontrée dans nos régions qui sont plutôt bien dotées.
Et on en meurt beaucoup.
Alors absolument. Alors on en meurt de moins en moins aujourd'hui. Les chiffres, par exemple, pour une maladie que l'on connaît toutes et tous, qui est le paludisme à Plasmodium falciparum, c'est-à-dire le parasite le plus pathogène hein, qui tue, on en est aujourd'hui environ à 400 000 personnes. Il y a encore quelques dizaines d'années en arrière, on en était à près de 2 millions d'individus à en mourir. Donc c'est un pas, un progrès énorme et qu'il faut aussi saluer aujourd'hui grâce aux méthodes et au développement de la santé publique internationale. Mais si on n'y fait pas attention, si certains États, comme on l'a vu d'ailleurs avec la Covid, notamment au Brésil, dénient le problème, eh bien on pourrait voir ressurgir ce type de pathologie infectieuse mortelle.
Alors il n'y a pas que le Brésil qui dénie les questions. Selon vous, nous connaissons trop mal les territoires et leurs possibles charges virales. J'ai même lu récemment que nous sommes dangereusement mal préparés aux futures pandémies, que disent certains experts. Et bon, l'épidémiologie a beaucoup de retard en France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui?
Oui, alors les auditeurs doivent savoir aujourd'hui qu'on est capable, en moins de 7 semaines, pour le premier SRAS, vous vous rappelez, du SRAS coronavirus 1, responsable d'une pandémie il y a une dizaine d'années environ, eh bien, le séquençage du génome du virus avait été fait en 7 semaines. Pour ce Covid-19, son séquençage a été effectué en 2 semaines. C'est-à-dire qu'on a des aptitudes extraordinaires, il faut le saluer. D'ailleurs, grâce au progrès de la biologie moderne, de la biologie moléculaire moderne, a séquencé très très rapidement l'un des acteurs au jeu finalement épidémico-pandémique, qui est ici le virus. Mais ça ne suffit pas. Autrement dit, pour la plupart des situations d'émergence de maladies infectieuses dans le monde aujourd'hui, on ne connaît pas ce que j'appelle les territoires d'émergence, c'est-à-dire quelles sont les conditions qui sont rencontrées, qui se superposent. Elles peuvent être autant dues à des comportements humains, à la sociologie, mais aussi à l'économie. On voit l'importance aujourd'hui de l'agriculture dans la modification des espaces naturels, notamment dans les zones intertropicales. Je pense au problème de déforestation. Eh bien, tout ceci concourt à créer des territoires que l'on a déjà créés, qui vont avoir une dynamique et qui vont entraîner un certain nombre de maladies, ou plutôt d'agents infectieux émergents, à apparaître.
Alors forcément, comme il y avait des morts et comme la situation était grave, il y a eu énormément de recherches qui ont été menées sur les régions tropicales. Aujourd'hui, on se trouve en Europe, ou même en France, dans une situation où on peut voir émerger ces virus. Et pourtant, on n'y a pas prêté une telle attention. On n'a pas tant travaillé dessus. Or, aujourd'hui, sommes-nous préparés à ce qui nous attend?
Alors, on voit moins d'émergence. Il y a effectivement une maladie émergente, notamment dans nos régions ici septentrionales, en Europe de l'Ouest, qui est la maladie de Lyme, qui est due à une bactérie transmise par les tiques. Mais on voit plus la propagation à partir de territoires d'émergence qui, dans beaucoup de cas, se trouvent en Asie du Sud-Est, avec une démographie galopante, une urbanisation importante et des gens qu'il faut bien entendu nourrir et développer une agriculture et l'élevage, et qui tous concourent à la propagation de ce type de virus comme on l'a rencontré avec cette Covid-19.
Alors aujourd'hui, on a un temps qui est un peu révolu. On utilisait beaucoup de pesticides pour essayer de venir à bout de tout cela. Bon, on a un petit peu mis le holà, mais les risques de transmission sont toujours aujourd'hui développés. Et alors, dans certaines régions, on a des tentatives biologiques. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait d'accord avec ces tentatives. Alors, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes?
Absolument, je veux bien. C'est-à-dire qu'on est souvent dans une pensée qui est une pensée très positiviste, je trouve. C'est-à-dire que les solutions seront adéquates et seront sûres et certaines pour enrayer ou éradiquer un problème. Alors, ce peut être justement la pullulation d'un certain nombre de vecteurs dans un lieu, mais actuellement, sur le programme que je co-coordonne en Amérique du Sud, qui est un programme financé par les États-Unis en partie, eh bien, on suppose aujourd'hui que les germes microbiens, qui sont des mycobactéries, un peu de la grande famille des germes microbiens responsables de la tuberculose, mais aussi de la lèpre, eh bien, il aurait pu être propagé à partir des petits poissons dont on s'est servi, justement. Alors, je pense au gambusie, parce qu'on en a ici dans tous les canaux autour de Montpellier, dont on s'est servi à partir des années 60, justement, pour prédater les larves de moustiques. Et on se rend compte avec cet exemple, s'il est démontré, qu'en disséminant de par le monde entier, finalement, jusque dans nos régions, ces petits poissons pour faire ce qu'on appelle de la lutte biologique, pour prédater des larves d'un moustique, eh bien, on a introduit malencontreusement des germes microbiens responsables de ce que l'on appelle des mycobactérioses dans cette situation-là.
Donc lutte biologique que vous mettez un petit peu en question.
Eh bien, tout simplement parce que en situation de crise, eh bien, ce sont souvent les personnes qui vont prononcer, alors quid d'une découverte, mais aussi d'une solution, et que l'on va accepter comme absolument vrai et sans problème, et que dans toutes ces situations de crise, on n'imagine pas et on ne discute même pas des travers et des conséquences.
Alors la stérilisation, des moustiques. Est-ce que c'était pareil ?
Alors, c'est un sujet que je ne connais pas trop. Hein, je veux dire, c'est de l'ordre intellectuellement du possible. Je n'ai pas suivi absolument les résultats de ces essais de stérilisation. Est-ce qu'ils marchent ? Quelle est la viabilité des moustiques que l'on a stérilisés et que l'on lâche ensuite, qui vont entrer en compétition avec, donc, effectivement, les moustiques qui sont naturels et qui sont porteurs de gènes naturels ? Je ne connais pas les résultats, je ne les ai pas explorés plus avant, mais c'est une question essentielle. Quelle est leur viabilité à ces moustiques qui ont été manipulés ? Dans la plupart des situations que l'on connaît, eh bien, ils ont des désavantages à leur propre survie. Et finalement, dans les premiers temps, ils peuvent coloniser et donc avoir un intérêt. Et puis secondairement, les souches naturelles reprennent de l'importance et éliminent celles que l'on a souhaité introduire.
Alors, avant de quitter, vous aviez évoqué quand même quelque chose que je trouve important, c'est dans ces idées toutes faites, la relation à l'élevage industriel. Et avec toujours des gens qui ont une très bonne solution.
Voilà, absolument. Alors, par exemple, sur le rôle aujourd'hui de l'élevage intensif dans l'émergence de nouveaux agents infectieux, finalement, que dit la littérature scientifique, c'est-à-dire ce qui est produit de par le monde, par des différentes équipes à travailler sur le sujet, finalement, on a très, très peu d'exemples. C'est d'ailleurs beaucoup plus lié à des procédés agronomiques liés et associés. Hein. On pense au prion responsable de la maladie de la vache folle. Mais si on a
la grippe aviaire, par exemple.
Oui, la grippe aviaire. Mais non, la grippe aviaire dans le sud-ouest de la France, elle n'est pas ou très faiblement liée au développement de l'élevage intensif. Ce sont ce qu'on appelle plutôt des élevages semi-intensifs, c'est-à-dire que le soir, les canards vont rentrer. En chambre, et puis dans la journée, on va les laisser à l'air libre, et à l'air libre, ils vont rencontrer possiblement des oiseaux sauvages qui peuvent être, eux, les responsables à la transmission vers l'élevage. Donc on voit bien là que c'est justement un problème d'exposition, et un problème d'exposition par rapport à un danger sanitaire circulant dans l'environnement. Et c'est l'exemple le plus frappant qui puisse exister.
Bon, alors nous voilà avec un nouveau, thème de travail et de recherche sur l'élevage intensif. On ne manquera pas d'y revenir. Simplement, juste pour avoir le mot de la fin, aujourd'hui, le Montpelliérain de base qui n'est pas chercheur, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire peut-être pour vous aider ou pour...
Alors ça, c'est une question importante. C'est probablement par là qu'il faut commencer. On voit à Montpellier une population qui est en très nette augmentation depuis 30 ans. C'est la région pratiquement en Europe où il y a un flux migratoire l'un des plus importants. Donc quand on est Montpelliérain, on voit effectivement un développement extrêmement important d'immeubles dans tous les sens, etc. Bien entendu, avec des terrasses, parce que les personnes qui quittent le nord de la France et qui viennent dans le sud de la France souhaitent aussi pouvoir passer leur bon temps au soleil et à l'extérieur. Et donc, avec le développement des terrasses, on voit aussi le développement de jardins extérieurs avec des pots de fleurs, des soucoupes tout en bas des pots de fleurs qui vont contenir et maintenir de l'eau. Et bien, vous avez là de parfaits gîtes à l'installation de ces fameux petits insectes dont on vient de parler, qui sont les moustiques tigres et qui vont vous nuire et qui peuvent possiblement transmettre des maladies. Donc on voit bien le rôle du citoyen.
Et là, on boucle la boucle parce qu'il est effectivement clair que le réchauffement climatique et ces sécheresses vont faire que ceux qui ont la main verte vont vouloir davantage peut-être mettre de l'eau sous leur plantes.
Bien évidemment, et on voit bien que les sujets, les thèmes sont très liés, bien entendu, mais que là, il y a une action principale et très très simple, qui est l'action de chaque citoyen à essayer d'enrayer ce problème.
Jean-François Guégan, merci. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.